de l'enfant né du mariage. J'ai une question pour toi seul, mon frère. Je jette cette question comme une sonde dans ton âme, afin de connaître sa profondeur. Tu es jeune et tu désires femme et enfant. Mais je te demande, es-tu le victorieux, vainqueur de lui-même, souverain des sens, maître de ses vertus ? C'est ce que je te demande. Ou bien ton vœu est-il le cri de la bête et de l'indigence, ou la peur de la solitude, ou la discorde avec toi-même ? Je veux que ta victoire et ta liberté aspirent à se perpétuer par l'enfant. Tu dois construire des monuments vivants à ta victoire et à ta délivrance. Tu dois construire plus haut que toi-même, mais il faut d'abord que tu sois construit toi-même, carré de la tête à la base. Tu ne dois pas seulement propager ta race plus loin, mais aussi plus haut. Que le jardin du mariage te serve à cela. Tu dois créer un corps d'essence supérieure, un premier mouvement, une roue qui roule sur elle-même. Tu dois créer un créateur. Mariage. C'est ainsi que j'appelle la volonté à deux de créer l'unique, qui est plus que ceux qui l'ont créé. Respect mutuel, c'est là le mariage, respect de ceux qui veulent d'une telle volonté. Que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que les inutiles appellent mariage, la foule des superflus, comment appellerais-je cela ? Hélas, cette pauvreté de l'âme à deux. Hélas, cette impureté de l'âme à deux. Hélas, ce misérable contentement à deux. Mariage, c'est ainsi qu'ils appellent tout cela, et ils disent que leurs unions n'ont été scellées dans le ciel. Eh bien, je n'en veux pas de ce ciel des superflus. Non, je n'en veux pas de ces bêtes empêtrées dans le filet céleste. Loin de moi aussi le Dieu qui vient en boitant pour bénir ce qu'il n'a pas uni. Ne riez pas de pareil mariage. Quel est l'enfant qui n'aurait pas raison de pleurer sur ses parents ? Cet homme me semblait respectable et mûr pour saisir le sens de la terre. Mais lorsque je vis sa femme, la terre me sembla une demeure pour les insensés. Oui, je voudrais que la terre fût secouée de convulsions quand je vois un saint s'accoupler à une noix. Tel partit comme un héros en quête de vérité, et il ne captura qu'un petit mensonge paré. Il appelle cela son mariage. Tel autre était réservé dans ses relations et difficile dans son choix. Mais d'un seul coup, il a gâté à tout jamais sa société. Il appelle cela son mariage. Tel autre encore cherchait une servante avec les vertus d'un ange. Mais soudain, il devint la servante d'une femme. Et maintenant, il lui faudrait devenir ange lui-même. Je n'ai vu partout qu'acheteurs pleins de précautions, et tous ont des yeux rusés. Mais le plus rusé lui-même achète sa femme comme chat en poche. Beaucoup de courtes folies. C'est là ce que vous appelez l'amour. Et votre mariage met fin à beaucoup de courtes folies par une longue sottise. Votre amour de la femme et l'amour de la femme pour l'homme, oh que ce soit de la pitié pour des dieux souffrants et voilés, mais presque toujours, c'est une bête qui devine l'autre. Cependant, votre meilleur amour n'est qu'une métaphore extasiée et une douloureuse ardeur. Il est un flambeau qui doit éclairer pour vous les chemins supérieurs. Un jour, vous devrez aimer par-delà vous-même. Apprenez donc d'abord à aimer. C'est pourquoi il vous fallut boire l'amer calice de votre amour. Il y a de l'amertume dans le calice, même dans le calice du meilleur amour. C'est ainsi qu'il éveille en toi le désir du surhumain. C'est ainsi qu'il éveille en toi la soif, ô Créateur. Soif du Créateur, flèche et désir du surhumain. Dis-moi, mon frère, est-ce là ta volonté du mariage ? Je sanctifie une telle volonté et un tel mariage. Ainsi parlait Zarathoustra. De la mort volontaire. Il y en a beaucoup qui meurent trop tard et quelques-uns qui meurent trop tôt. La doctrine qui dit « meurs à temps » semble encore étrange. Meurs à temps, voilà ce qu'enseigne Zarathoustra. Il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps, qu'il ne soit donc jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflus. Mais les superflus eux-mêmes font les importants avec leur mort, et la noix la plus creuse prétend être cassée. Ils accordent tous de l'importance à la mort, mais pour eux la mort n'est pas encore une fête. Les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. Je vous montre la mort qui consacre, la mort qui, pour les vivants, devient un aiguillon et une promesse. L'accomplisseur meurt de sa mort, victorieux, entouré de ceux qui espèrent et qui promettent. C'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir, et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants. Mourir ainsi est la meilleure chose. Mais la seconde est celle-ci. Mourir au combat et répandre une grande âme. Mais haï tant par le combattant que par le victorieux est votre mort grimaçante qui s'avance en rampant comme un voleur, et qui pourtant vient en maître. Je vous fais l'éloge de ma mort, de la mort volontaire, qui me vient puisque je veux. Et quand voudrais-je ? Celui qui a un but et un héritier veut pour but et héritier la mort à temps. Et par respect pour le but et l'héritier, il ne suspendra plus de couronne fanée dans le sanctuaire de la vie. En vérité, je ne veux pas ressembler aux cordiers. Ils tirent leur fil en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière. Il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire. Une bouche édentée n'a plus droit à toutes les vérités. Et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps. Il faut cesser de se faire manger au moment où l'on vous trouve le plus de goût. Ceux-là le savent qui veulent être aimés longtemps. Il y a bien aussi des pommes aigres dont la destinée est d'attendre jusqu'au dernier jour de l'automne. Et elles deviennent en même temps mûres, jaunes et ridées. Chez les uns, le cœur vieillit d'abord, chez d'autres, l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse. Mais quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps. Il y en a qui manquent leur vie, un ver venimeux leur ronge le cœur, qu'ils tâchent au moins de mieux réussir dans leur mort. Il y en a qui ne prennent jamais de saveur, ils pourrissent déjà en été. C'est la lâcheté qui les retient à leurs branches. Il y en a beaucoup trop qui vivent et trop longtemps ils restent suspendus à leurs branches. Qu'une tempête vienne et secoue de l'arbre tout ce qui est pourri et mangé par le ver. viennent les prédicateurs de la mort rapide. Ce seraient eux les vraies tempêtes qui secouraient l'arbre de la vie. Mais je n'entends prêcher que la mort lente et la patience avec tout ce qui est terrestre. Hélas, vous prêchez la patience avec ce qui est terrestre. C'est le terrestre qui a trop de patience avec vous, blasphémateurs. En vérité, il est mort trop tôt, cet hébreu qu'honore les prédicateurs de la mort lente. Et pour un grand nombre, depuis, ce fut une fatalité qu'il mourut trop tôt. Il ne connaissait encore que les larmes et la tristesse de l'hébreu, ainsi que la haine des bons et des justes, cet hébreu Jésus. Et voici que le désir de la mort le saisit à l'improviste. Pourquoi n'est-il pas resté au désert, loin des bons et des justes ? Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et aussi le rire. Croyez-moi, mes frères, il est mort trop tôt. Il aurait lui-même rétracté sa doctrine s'il avait vécu jusqu'à mon âge. Il était assez noble pour se rétracter. Mais il n'était pas encore mûr. L'amour du jeune homme manque de maturité. Voilà pourquoi il hait les hommes et la terre. Chez lui, l'âme et les ailes de la pensée sont encore liées et pesantes. Mais il y a de l'enfant dans l'homme plus que dans le jeune homme, et moins de tristesse. L'homme comprend mieux la mort et la vie. Libre pour la mort et libre dans la mort, divin négateur s'il n'est plus temps d'affirmer. Ainsi il comprend la vie et la mort. Que votre mort ne soit pas un blasphème sur l'homme et la terre, ô mes amis, telle est la grâce que j'implore du miel de votre âme. Que dans votre agonie, votre esprit et votre vertu jettent encore une dernière lueur, comme la rougeur du couchant enflamme la terre. Sinon, votre mort vous aura mal réussi. C'est ainsi que je veux mourir moi-même, afin que vous aimiez davantage la terre à cause de moi, ô mes amis. Et je veux revenir à la terre pour que je trouve mon repos en celle qui m'a engendré. En vérité, Zarathoustra avait un but. Il a lancé sa balle. Maintenant, ô mes amis, vous héritez de mon but. C'est à vous que je lance la balle dorée. Plus que toute autre chose, j'aime à vous voir lancer la balle dorée, ô mes amis, et c'est pourquoi je demeure encore un peu sur la terre. Pardonnez-le-moi. Ainsi parlait Zarathoustra. De la vertu qui donne. 1. Lorsque Zarathoustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, et dont le nom est la vache multicolore, beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors Zarathoustra leur dit qu'il voulait continuer seul la route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathoustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples : Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ? C'est parce qu'il est rare et inutile, étincelant et doux dans son éclat. Il se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups? Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous contraignez toutes choses à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elles recoulent de votre source comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs. Mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là, et toujours affamé. Un égoïsme qui veut toujours voler. C'est l'égoïsme des malades. L'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille. Avec l'avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger. Et toujours, il rampe autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voie de la maladie, la voie d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes? N'est-ce pas la dégénérescence? Et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l'âme qui donne est absente. Notre chemin va vers les hauteurs, de l'espèce à l'espèce supérieure. Mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit « tout pour moi ». Notre sens vole vers les hauteurs. C'est ainsi qu'il est un symbole de notre corps, le symbole d'une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire. Il devient et lutte. Et l'esprit, qu'est-il pour le corps? Il est le héros des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'expriment point, ils font signe. Et fou qui veut leur demander la connaissance. Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symbole. C'est là qu'est l'origine de votre vertu. C'est là que votre corps est élevé et ressuscité. Il ravit l'esprit de sa félicité afin qu'il devienne créateur, qu'il évalue et qu'il aime, qu'il soit le bienfaiteur de toute chose. Quand votre cœur bouillonne large et plein, pareil au grand fleuve, bénédiction n'est danger pour les riverains. C'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous vous élevez au-dessus de la louange et du blâme, et quand votre volonté, la volonté d'un homme qui aime, veut commander à toute chose, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous n'avez plus qu'une seule volonté, et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous, c'est là l'origine de votre vertu. En vérité, c'est là un nouveau bien et mal. En vérité, c'est un nouveau murmure profond et la voix d'une source nouvelle. Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu. Elle est une pensée régnante et autour de cette pensée une âme avisée, un soleil doré et autour de lui le serpent de la connaissance. 2. Ici, Zarathoustra se tut quelque temps et il regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Mes frères, restez fidèles à la terre, avec toute la puissance de votre vertu. Que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure. Ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y eut toujours tant de vertus égarées. Ramenez, comme moi, la vertu égarée sur la terre. Oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie, afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de mille façons différentes. Hélas, dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise. Elles sont devenues corps et volonté. L'esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas, combien d'ignorances et d'erreurs se sont incorporées en nous. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Nous luttons encore pas à pas avec le géant hasard, et sur toute l'humanité, jusqu'à présent, le non-sens régnait encore. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et la valeur de toute chose se renouvellera par vous. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Le corps se purifie par le savoir. Il s'élève en essayant avec science. Pour celui qui cherche la connaissance, tous les instincts se sanctifient. L'âme de celui qui est élevé se réjouit. Médecin, aide-toi à toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même. Il y a 1000 sentiers qui n'ont jamais été parcourus, 1000 santés et 1000 terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découverts et épuisés. Veillez et écoutez, solitaires. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Un joyeux messager cherche de fines oreilles. Solitaires d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous, qui vous êtes choisis vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi. Et c'est de ce peuple que naîtra le surhumain. En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison. Et déjà, une odeur nouvelle l'enveloppe. Une odeur salutaire et un nouvel espoir. 3. Quand Zarathoustra eut prononcé ces paroles, il se tut comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps il soupesa son bâton avec hésitation. Enfin il parla ainsi et sa voix s'était transformée. Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi, vous partirez seul. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathoustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne ? Vous me vénérez, mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour ? Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathoustra. Mais qu'importe Zarathoustra ? Vous êtes mes croyants. Mais qu'importe tous les croyants ? Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de choses. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues. Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance. Alors je veux être auprès de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi. Et ce sera le grand midi quand l'homme sera au milieu de sa route entre la bête et le surhumain. Quand il fêtera comme sa plus haute espérance, son chemin qui mène à un nouveau matin. Alors, celui qui disparaît se bénira lui-même afin de passer de l'autre côté, et le soleil de sa connaissance sera dans son midi. Tous les dieux sont morts. Nous voulons maintenant que le surhumain vive. Que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté. Ainsi parlait Zarathoustra. Fin de la première partie.